Bienvenue sur la chaîne Ambiance, Architecture, Urbanité, AAU.
J'en profite peut-être pour essayer de dire la continuité par rapport à la matinée. D'une part, Élise le disait en introduction, enjeu de traquer l'ordinaire et le quotidien, que ce soit, disait-elle, et c'était dans notre argument, dans la fabrique cadrée ou bien émergente. C'est bon pour le... Ouais. Et donc ce matin, on a exploré des objets de recherche spécifiques, en bonne partie liés à des thèses en cours, qui sont liés au... à la prise au sérieux de l'ordinaire de la fabrique, des instructeurs au travail, des activistes de la cyclabilité accrue. Je pense d'ailleurs que cette notion de cyclabilité, elle est peut-être précisément une notion forgée à partir de l'ordinaire de la fabrique urbaine. Et cet après-midi, on va davantage se concentrer, même si cette frontière, on peut la remettre en cause largement, sur la question des focales, des méthodes d'approche de l'ordinaire de la fabrique. C'est un peu artificiel parce qu'on en a déjà bien parlé ce matin, il me semble. Et voilà, premier élément que je voulais peut-être rappeler, c'est beaucoup d'écho avec ce qu'on a fait ce matin. On notait dans notre petit texte de questionnement collectif qu'on a des approches, des parties pris méthodologiques qui ne sont pas les mêmes au sein du laboratoire, hein, mais tout de même qui mobilisent des approches au plus près des acteurs de la production urbaine et de leurs activités. Et puis finalement, le florilège ici en témoignait aussi. Et donc avec ce souci de chercher à tracer, c'est des débats qu'on a eus au sein du laboratoire, assez nombreux quand on a fait le projet scientifique, en se demandant comment, au sein d'un même horizon, on allait associer les activités de traçage d'un côté, et puis des activités de critique de l'autre, je vais y revenir là tout de suite. Et donc on essaie cet après-midi d'interroger ce que cet horizon peut produire, regarder ou visiter des propositions de chercheurs qui ne sont pas forcément sur ces lignes, hein. Rappelons-nous hein, collectivement le fait qu'on se mette un peu à l'épreuve à travers ces journées et puis aussi à travers le colloque de l'automne. En tout cas, questionner l'enjeu d'associer les activités de description et de critique. C'est un peu le point de départ de lancer aux unes et aux autres cet après-midi. Comment décrire et analyser ces terrains et ces pratiques ordinaires? Comment tracer et critiquer cette fabrique urbaine? Quel positionnement occuper entre recherche et pratique, entre approche focalisée et approche ambulatoire? Alors, peut-être pour forcer le trait, je m'en excuse, mais c'est le rôle des introductions de forcer le trait, on peut dire d'un côté qu'on est proche, plus ou moins, comme toujours, de ressources ethno-méthodologiques, qu'on va volontiers croiser avec la sociologie pragmatique. Prendre les acteurs au sérieux, être parmi eux, leur propre catégorie nous importe. Nous n'allons pas imposer un cadre analytique et la plupart du temps, on va défier les approches hypothético-déductives. Nous voulons donner à voir, donner à lire, dans leur épaisseur, dans la durée, comme dans les cadrages ramassés, qu'on fait ce que présentait Solal ce matin. Et donc, ce qui nous importe souvent, c'est de savoir ce que portent des histoires engrammées, des portraits d'acteurs, une approche biothématique. C'est de comprendre ce que formatent des réunions de travail, une ingénierie de projet, une démarche prospective, qu'on renvoie à une recherche un peu ancienne maintenant. C'est le tracé de la fabrique avec cette posture ethnographique, comme elle était imagée ce matin à nouveau dans l'affaire du cabanon sur EBC. Comprenne qui peut, espace boisé classé. Donc d'un côté, on a ça. Et puis de l'autre côté, peut-être, une ironie, un décentrement. C'est Élise ce matin qui a renvoyé cette idée que s'intéresser à l'ordinaire n'est pas une activité ordinaire, et l'enjeu de maintenir une tension critique. Alors, cette tension critique, ça peut être décidée quant au mirage du geste urbanistique, quant à la novlangue managériale, se situer ailleurs, penser ailleurs, disait Nicole Lapierre, et puis proposer de nouvelles intelligibilités, différer le solutionnisme scientiste, pointer les effets des opacités des gouvernances urbaines, en somme, on est dans la critique de la fabrique. Alors évidemment, je force le trait entre ces deux pôles, mais en tout cas, ils agitent plusieurs de nos recherches, plusieurs de nos points de vue, et ils expliquent aussi comment on a plusieurs compagnons de route proches, à la fois dans le champ littéraire et puis dans un champ qui nous est plus proche. Alors, quelques boussoles, et elles sont partagées, outre le PEREC de ce matin, c'est le travail de Maspero et Annick France, que refont, que reconduisent Marie-Hélène Baquet et André Merian il y a 2 ou 3 ans, et qu'on invite dans les premiers temps pour venir en discuter avec nous. Ce sont des travaux d'Éric Chauvier, de Bruce Bégou, de François Bon, j'ai pas le temps, ça va pas être une autre virgule, mais j'avais retrouvé un petit passage de Où finit la ville, le travail qu'il avait écrit à partir d'une résidence dans le lac, depuis le lac de Grandlieu. Mais ce sont aussi des travaux de sciences humaines et sociales, et c'est ce qui va m'amener à véritablement introduire qui va parler à la suite. Des travaux de sciences humaines et sociales, ben on en a eu des exemples tout à l'heure, l'extrait d'appel d'offres du périurbain à l'urbain, qu'on a vu dans le petit florilège, c'était un travail de recherche urbaine qu'on a mené en essayant pour le coup de revenir à un enjeu descriptif. On a beaucoup échangé avec les collègues à cette période sur ce que c'est que le descriptif et même le décryptif, avec un collègue architecte parti faire d'autres choses depuis. Et donc des expériences méthodologiques dont celle des rues du bois que vous avez pu voir partiellement tout à l'heure. C'est aussi, et je voulais l'évoquer parce qu'elle n'a pas pu être parmi nous, mais c'était Elsa Vivant, qui était disponible la première journée, mais qui n'était pas disponible la deuxième journée. La première journée, c'est celle que nous avons différée depuis le... je ne sais plus quel jour, 20 janvier. Et la deuxième journée, c'est celle d'aujourd'hui, elle n'était pas disponible. Quelques mots de son travail, peut-être parce que, d'une part, ce livre, L'impasse, scène de l'urbanisme ordinaire, vous l'avez peut-être lu ou parcouru, paru aux éditions Créafis l'an dernier. Mais je voudrais peut-être insister sur le fait que c'est aussi issu d'un travail original de son habilitation à diriger des recherches. Et donc ça, c'est intéressant de dire que dans notre champ, ces questions arrivent et ne sont pas vues comme un supplément d'âme ou bien une littérature à côté de la plaque. Et c'est vrai que vous y avez peut-être aussi été attentif si vous l'avez parcouru ou lu, mais il y a aussi ce travail formel dans le livre qui est intéressant à pointer. Comment notamment on peut formellement, et désolé je n'ai pas scanné pour vous le montrer dignement, comment on peut dans une même page restituer formellement la question de la fatigue au travail, du surmenage pour l'urbaniste. Ce travail est une fiction et évidemment il est engrammé dans une question de sociologie du travail. Je le dis en deux mots, hein, puisqu'elle n'est pas là pour en parler, mais... C'est donc un texte de fiction qui met en scène cette question, les effets de la division du travail dans les mondes contemporains de l'urbanisme et qui met en œuvre un positionnement qu'elle défend dans son habilitation, c'est celui de réarticuler les savoirs, de multiplier les publics via la fiction, entendue comme, je la cite reprenant Rancière, il me semble, la fiction entendue comme une forme de rationalité partagée par ceux qui doivent faire des choix et prendre des décisions en se projetant dans le futur. Fin de citation. Et donc on a des formes textuelles qui alternent entre récits, carnets de bord, portraits, documents, bribes de conversations quotidiennes. Comment, en gros, donner à voir, et je pense que ça rejoint ce que disait Pascal tout à l'heure, comment donner à voir, comment des acteurs s'organigramment. C'est d'ailleurs un beau néologisme, il me semble, qu'Elsa propose. Comment des habitants font face et se débrouillent, comment une universitaire déplore et résiste. Le tout autour d'un même terrain laboratoire qui témoigne d'une sorte de fuite en avant, dont le maître mot pourrait être celui de la spéculation. Je parle du travail qu'elle propose dans Impasse, scène de l'urbanisme ordinaire. Nous ne sommes pas là pour parler de livres, mais pour continuer d'échanger à partir de perspectives et de propos situés. Donc, le choix d'éclairer l'ordinaire en ses méthodes avec des regards différents, on va... Donc, non pas écouter Elsa Vivant, qui s'excuse de ne pas pouvoir être avec nous, mais nous aurons largement du grain à moudre avec... je vous donne quelques boussoles, évidemment, les uns et les autres se présenteront comme ils ont envie de se présenter. Ça fait même partie, à mon avis, d'un peu de l'enjeu. Mais en tout cas, Lucille Garnier, qui est en train de rédiger sa thèse, notamment sur la question des contestations métropolitaines, telles qu'elles se déploient à Nantes et Grenoble, quelqu'un qui est architecte de formation, qui fait un master sous la direction de Daniel Cheffay, qui revient vers l'urbanisme, l'aménagement, les sciences politiques, la sociologie de l'action publique. Voilà, il me semble que ça nous intéresse aussi au laboratoire. Alice Soggia, qui certes prépare son habilitation à diriger des recherches, et ça c'est toujours un moment important, grisant, etc. etc. Et puis qui a récemment coécrit un petit texte avec Sandra Parvu qui s'appelle « Enregistrer, écouter ». Tiens, ça résonne avec le Cresson, n'est-ce pas ? Et qui fait partie d'un projet éditorial collectif que je trouve bien intéressant par rapport à la question de la fabrique urbaine et de son ordinaire. Le projet de cet abécédaire, puisqu'il n'est pas encore relié complètement, tu me diras Alice si je me trompe, c'est bien d'explorer la transformation urbaine en tant que processus matériel et symbolique au cours duquel les espaces et les temps sont continuellement imaginés, racontés, négociés et projetés par les personnes qui les habitent, celles qui les conçoivent et celles qui les administrent dans un jeu de contraintes conjoncturelles. Et l'engagement d'ailleurs dans un objet éditorial intéressant, progressif, avec des notions qui vont arriver au fur et à mesure. Elles ne sont pas toutes présentes. L'abécédaire n'est pas livré en bloc. Et ça me semble intéressant à mentionner. Je ne vais pas plus loin, on pourra peut-être y revenir tout à l'heure. Jean-Yves Toussaint. Jean-Yves s'est intéressé notamment, parmi bien d'autres affaires, à la question de la matérialité ou dématérialité de l'urbain, aux objets de l'urbain, à leur prise. Et il me semble que parmi tes travaux, il y a l'enjeu de repeupler les sciences sociales. Petit clin d'œil, vous voyez, à des travaux qui nous intéressent, plusieurs ici, en tout cas, certainement. Et donc, ce serait donc une approche matérialiste des espaces urbains. Comment on trouve une voie ici, peut-être de renouvellement du dialogue entre disciplines, et comment ça nous permet, je pense à une thèse que tu avais récemment accompagnée, d'approcher plus sérieusement des questions qu'apporte la condition anthropocène, qui permettent de poser la question de quel sol nous dépendons, par exemple. Et donc une sensibilité aussi aux approches, tu auras tout le temps pour démolir tout ce que je peux raconter, mais des approches écosystémiques, qui montre un chemin autour de peut-être de l'ordinaire qui est un peu différent de celui qui peut être pratiqué au sein de AAU, Cresson Créneau, je retiens AAU. Voilà, des approches spécifiques de l'ordinaire qui ne sont pas non plus réticentes à l'idée de compter. Et c'est peut-être aussi une autre différence. Et puis Laurent Maté, géographe probablement. Mais géographe singulier parce qu'il est en délégation au Cresson, c'est dire en fait. La singularité, et qui met en avant, il me semble, dans plusieurs de ses textes, un regard ethnographique, c'est certain, une écriture littéraire, bien sûr, et puis une réflexion qui emprunte beaucoup à la narratologie, et il nous a semblé que, profitant de son sabbatique aussi du moment, c'était intéressant de profiter de son éclairage sur cette question de l'ordinaire de la fabrique urbaine et comment on l'éprouve, comment on l'exprime. Je suis un peu long, donc je m'arrête maintenant pour cette introduction, mais il faut relancer la machine après le repas. On a plutôt convenu de l'idée que nous n'étions pas trop longs les uns les autres. Déjà, il va falloir que j'arrête, sinon je déborde. Mais qu'en tout cas, les uns les autres, on prenne une dizaine de minutes pour préciser un point de vue, pour éventuellement déjà organiser des rebonds sur la matinée. Donc, approche conversationnelle, je le disais ce matin, nous verrons si nous y arrivons. Et puis ensuite, je le précise aussi, tout le monde sait que Véronique Biot est attentive depuis ce matin. Là, ce sera une mise en perspective de l'ensemble de la journée. Mais qu'en amont, nous profiterons, et il me semble que j'ai vu Charles connecté, d'un témoignage à chaud, quoi, le petit rapporteur de la conversation de l'après-midi. On imaginait, comme Kevin et Nathalie l'ont fait ce matin, une co-animation, puis on se disait, a priori, ça va être compliqué en présentiel et en distanciel. Moi, j'ai trouvé finalement que ça marchait pas mal, Kevin et Nathalie, ce matin. En tout cas, Charles peut rester discret, muet pendant une heure, un peu plus, et puis ensuite, nous l'écouterons pour son rapport d'étonnement. Évidemment, nous ne savons rien pour l'instant. On y va, je me tais, puis peut-être Lucille.